Le mercredi 22 juin 2011 avait lieu au club de la presse du Languedoc-Roussillon la signature d'une convention entre la Confédération nationale des radios associatives et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Chaque organisme regroupe 250 radios. Une convention qui réunit donc 500 radios associatives françaises et maliennes. Le Languedoc-Roussillon est en pointe dans ses jumelages. C'est une deuxième vague dans les échanges de journalistes, animateurs, techniciens et programmes pour les radios locales et indépendantes après la première d'il y a 10 ans. Parmi les autres objectifs de la convention, des actions communes à l'échelle francophone et une aide à l'organisation du congrès panafricain des radios Ondes de Liberté qui se tient en novembre à Bamako. Isabelle Bourdet, présidente de la CNRA, Daouda Marico, président de l'URTEL, Jean-Paul Gambier, délégué aux relations internationales de la CNRA, étaient présents, ainsi que Isaïe Somboro, secrétaire permanent de l'URTEL, Makan Koné, président de la Maison de la Presse du Mali, et Abdoulaye Diabaté, premier vice-président de la Maison de la Presse du Mali. Daouda Marico, président de l'URTEL, au micro de Divergence et Radio Pays d'Héro.
Cette signature signifie la volonté partagée de part d'autre entre l'URTEL et la CNRA de mettre en commun des initiatives en vue de la promotion des radios membres et aussi pour permettre vraiment aux hommes et aux femmes de nos radios de pouvoir vraiment se promouvoir et amener la radio à atteindre ses objectifs pour répondre à l'attente de nos différentes populations. Je pense là que c'est vraiment un instant très important, étant donné que nous allons profiter des forces et faiblesses des uns et des autres en vue vraiment de progresser mutuellement ensemble.
Donnez-nous quelques exemples de partenariats possibles.
Les partenariats possibles, on a parlé de la possibilité du jumelage entre les radios membres de nos différentes structures. Et ce jumelage, ça peut amener une compétence d'une radio membre de la CNRA à passer un moment chez nous au Mali auprès d'une radio. Et cette présence peut être l'occasion vraiment d'une formation même sur site. Appeler formation de suite parce que il y a des compétences que celui qui sera chargé d'être présent, que ces compétences peuvent être mises à la disposition progressivement à moindre coût parce que c'est la volonté de venir au Mali qui fera vraiment en sorte que le journaliste ou bien le technicien qui va passer un moment dans une station de radio peut faire un encadrement pour résoudre des problèmes qui sont connus, qui sont au niveau du personnel et cela va amener la radio à être populaire parce qu'elle va changer sa façon de travailler en qualité. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, vous savez qu'aujourd'hui, par rapport à certains événements, on a besoin de partager des points de vue. Et nous partageons entre nous la marque au plan international, la CNRA, la marque Europe, et l'URTEL, la marque Afrique. Donc, il y a des débats, il y a un certain nombre de points de vue qui peuvent être exprimés. Nous allons mutualiser vraiment nos visions, étant donné que par la signature de cette convention, nous partageons des valeurs. Et ces valeurs partagées vont nous amener sur le même terrain pour être forts, soit vraiment à pouvoir remporter des victoires en faveur soit des radios membres de l'URTEL au Mali ou bien ici. Et je pense que c'est là. Et l'autre aspect, c'est un cadre d'amitié. Quand il y a amitié entre les gens, et je pense que cela peut amener à déboucher à beaucoup de choses. À partir de la signature de cette convention, nous venons de sceller l'amitié entre toutes les radios membres de l'URTEL et les radios de la CNRA. Et cette amitié-là va se concrétiser de différentes manières. Parce que déjà, quand un agent quitte ici pour être au Mali, ça voudrait qu'il porte là le Mali dans son cœur. Parce qu'il va bénéficier de la chaleur malienne. Et tout comme celui qui va se déplacer pour venir travailler ici, c'est comme si la zone de la France en question avait un représentant au Mali. Donc je pense qu'il n'y a rien de tel. Et l'autre aspect, nous allons aider même les structures chargées de la coopération entre nos deux pays à pouvoir mieux orienter leurs idées et leurs moyens. Parce que nous serons là pour leur proposer vraiment des actions réalisables. parce qu'eux, ils agissent dans le sens vraiment de l'intérêt des communautés. Et nous sommes là pour la communauté, que ce soit la promotion sociale, la promotion économique, la promotion culturelle. Je pense que nous servons des cadres de référence pour booster tout ça. Et ça va aider, je suis convaincu, tous ceux qui sont chargés vraiment de la coopération entre nos différents pays. Et que ce soit la coopération décentralisée, que ce soit la coopération culturelle, nous pouvons vraiment aider ces structures-là à mieux orienter leur façon d'intervenir. Et je pense que tout ça, c'est l'intérêt de la convention qu'on vient de signer entre nous aujourd'hui.
Pour les auditeurs qui n'en ont pas forcément conscience, il faut préciser que nous, en Europe, nos radios se sont un peu noyées dans le paysage audiovisuel, puisqu'il est essentiellement aujourd'hui constitué de chaînes commerciales, de radios commerciales, etc. Et c'est vrai que les Français sont habitués à avoir beaucoup de radios associatives, mais ils sont habitués aussi à ce que ces radios associatives aient assez peu d'audience, alors qu'au Mali particulièrement, le nombre de radios et surtout, on va dire, leur lien avec leur auditoire est beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Et ça explique aussi le rôle social et quelque part citoyen, dans le sens politique du terme, que jouent vos radios et que les médias français feraient bien de s'en inspirer, puisqu'on évoquait tout à l'heure le fait qu'en termes de liberté de la presse, la France est derrière le Mali.
Oui, ça, je suis d'accord, parce qu'en fait, les radios constituent au niveau des différentes zones d'implantation les véritables points de confiance. Aujourd'hui, quand un objet est perdu et que un habitant ramasse un objet perdu, au lieu d'aller à la police, il se rend à la radio. Il informe la radio, il dit « j'ai tel objet que j'ai ramassé ». Vous lui dites « amenez à la police », il dira « non, je voudrais que ce soit la radio ». Quand quelqu'un, un auditeur qui vient de son village, qui a un problème avec la police, sa moto a été arrêtée pour des problèmes de pièces, il pense que la radio peut résoudre. C'est parce que vraiment il y a une mission sociale que les radios rendent. Dans le cadre, il y a un programme, il y a le trafic des enfants qui constitue un problème au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire et puis en Guinée. Dans le cadre de cette lutte, les radios ont été repérées comme étant des points de référence. Ça voudrait dire que à travers les interventions des ONG, on dira si un enfant a des problèmes, que tu sors, tu veux aller à l'aventure, tu as des problèmes, tu te rends à la radio. Et je vais vous raconter une histoire. C'est dans le cadre du trafic des enfants, c'est un marabout qui avait des ans, qui a confié son troupeau de chèvres à un enfant de moins de 8 ans. L'enfant, en conduisant ces chèvres-là, s'est égaré dans la nature. Il est arrivé en ville, on a conduit l'enfant avec ces chèvres-là à la radio. Et c'est le directeur de la radio qui a nourri les chèvres, qui a payé à manger à l'enfant le temps de voir son maître coranique. Est-ce qu'on peut imaginer un rôle social en-delà de ça? Ça voudrait dire que c'est un exemple peut-être qui va inspirer aussi nos amis ici. Il y a la liberté d'expression, mais la radio continue à être la chose des communautés. Et cela est une réalité au niveau de tous les Maliens.
C'est bien d'égal à égal aujourd'hui en 2011 que vous signez une convention avec la France, le Mali?
Oui, c'est égal à égal. Moi, je pense que si on le faisait en pensant qu'il y avait une supériorité, ça n'aurait pas son sens. On a beaucoup réfléchi. Ça voudrait dire déjà, la CNRA existe depuis bientôt combien d'années? L'URTEL existe depuis combien d'années? Il y a eu des exemples de coopération à travers les jumelages entre radio et radio. Mais c'est après une analyse situationnelle de l'URTEL en tant que structure fédératrice des radios que la CNRA s'est convaincue de dire que je dois avoir une relation. Et nous aussi, nous avons eu le temps de réfléchir sur la CNRA. Qu'est-ce que la CNRA fait? Quel est vraiment le profil de la CNRA auprès vraiment des différents acteurs de la France? C'est ce qui fait qu'on n'a plus hésité. Donc on s'est dit non, nous sommes deux structures, deux associations. Nous avons accepté parce qu'on s'est dit qu'on a un certain nombre de valeurs à partager, des valeurs communes. Donc on va essayer de se mettre ensemble égal à égal. Il n'y a pas d'autre souci derrière la tête.
La CNRA et l'URTEL signent donc une convention d'égal à égal, deux structures qui n'en sont pas nécessairement au même point de structuration, et on pourrait croire le contraire, mais c'est la CNRA qui ne dispose actuellement pas de permanent, tandis qu'à l'URTEL, un secrétaire permanent est en place depuis quelques années. Isaïe Somboro nous parle de son rôle.
Alors Isaïe, qu'est-ce que c'est qu'être le secrétaire permanent de l'URTEL?
Merci de m'avoir donné la parole. Secrétaire permanent de l'URTEL, c'est être en quelque sorte la mémoire de la maison. Je travaille pour un bureau qui est élu pour 3 ans, dont le mandat est renouvelable une seule fois. Donc les équipes passent, le permanent est là, il sert de croix de transmission, croix de transition, entre l'ancienne et la nouvelle équipe.
Est-ce que c'est parfois compliqué?
Ben oui, c'est un travail quand même qui demande beaucoup de disponibilité et également quelques ressources. Notamment, il faut travailler avec beaucoup de gens, donc il faut avoir souvent des dos larges pour prendre chacun tel qu'il est. Voilà.
Il y a des fois des querelles, des incompréhensions, le fait d'être la mémoire de la structure, est-ce que justement ça permet d'aplanir un petit peu quand les gens ont besoin de se refaire préciser les choses?
Oui, tout à fait. Du fait d'être la mémoire, ça permet d'avoir une position d'arbitre, souvent face à certaines questions, parce que dans ces choses-là, on n'invente pas la roue. Donc les équipes se succèdent effectivement et très souvent le secrétaire permanent est le dernier recours pour arbitrer sur telle ou telle position. Voilà.
Sur les fondamentaux, j'imagine que les membres du bureau, les gens de l'URTEL sont tous réunis autour des mêmes questions. Qu'est-ce qui parfois peut diviser?
Bon, moi je pense que ici, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous divise. Parce que c'est quand même une association. Alors, chacun gère son organe. Donc, les responsables ne se réunissent que pour l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la promotion de la radio libre, mettre la radio libre au service du développement du Mali. C'est ça l'essentiel. Voilà. Et sur ce point, tout le monde est d'accord.
Alors, on précise que ça fait 10 ans que vous occupez ce poste.
Oui, effectivement, depuis 99 précisément, mars 99. Et nous pouvons nous vanter à l'URTEL que nous sommes quand même la seule association qui ait réussi cet exploit. Voilà. Auparavant, j'étais directeur de radio. J'ai été directeur de radio pendant 4 ans, donc avant de venir me mettre au service de l'Union.
Donc vous connaissez les deux côtés, le côté radio et puis le côté dossier et fédération.
Oui, c'est un peu bon. J'ai même une formation de base, une formation d'administrateur. Donc je suis un juriste de formation. Ensuite, j'ai fait le terrain. J'ai été responsable de radio et donc ma première formation ajoutée à mon expérience de terrain ont motivé mon arrivée maintenant au siège de l'Union.
Dans les années 2000, à l'initiative du ministère des Affaires étrangères, étaient menés des jumelages entre radios françaises et d'Afrique de l'Ouest. Des jumelages qui sont heurtés à de nombreuses difficultés et qui pour la plupart se sont éteints, à l'exception de quelques-uns comme celui de Divergence FM et Radio Tabalé à Bamako. Jean-Paul Gambier, chargé des relations internationales à la CNRA.
Alors une question, est-ce que la mise en place de cette convention, qui vient des radios mêmes et de leur confédération, peut garantir une pérennité plus importante que quand ça vient d'une initiative gouvernementale qui dit « est-ce que vous voudriez bien ?» etc.
Garantir, non. Je n'ai pas cette prétention. Contribuer, oui, sûrement. C'est-à-dire que depuis le début des années 2000-2001, donc quand on s'est engagé avec le soutien du ministère des Affaires étrangères dans ces aventures de jumelage, et quand je dis aventure, c'est qu'il a fallu défricher mutuellement, on avait une infrastructure qui n'existe plus là aujourd'hui, du moins un soutien logistique qui n'existe plus aujourd'hui, qui est basé plus sur des opportunités en termes de partenariat avec des ONG, réseau éducateurs sans frontières, avec de la coopération décentralisée avec un conseil général, etc. Cette convention, c'est un point formel qui nous permet notamment de renouer avec l'institution du ministère des Affaires étrangères, non pas au niveau national, à Paris, mais sur le terrain en Afrique, parce que les personnes qui travaillent dans les services de la coopération et de l'action culturelle connaissent les radios avec qui nous signons des partenariats. Ils savent très bien au Mali qui est l'URTEL et pourquoi il est important d'avoir un partenariat avec l'URTEL. Jusqu'à présent, on l'avait joué au cas par cas, entre radios, mais on a vu la limite de l'exercice et aujourd'hui, cette signature, elle était nécessaire.
Signature qui permet aussi de représenter. On est dans la grande époque du lobbying citoyen. Ça permet aussi d'être écouté, le fait d'avoir justement ce type de convention et puis de peut-être de peser plus quand il s'agit de négocier.
Oui, et puis je pense que Il est important de se dire les choses et de les formaliser, notamment quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, les médias, dans le grand mouvement de la mondialisation et du passage au numérique, les médias communautaires, associatifs, citoyens, indépendants et ancrés dans un territoire, ils ont besoin de se reconnaître et de parler d'une voix qui puisse tirer dans le sens d'une garantie de l'existence de ces médias citoyens dans le temps. Mmh. Aujourd'hui, dans les débats auxquels je peux participer au niveau européen, sur tous les anciens pays de l'Est, les pays d'Europe centrale et orientale, ce qui pour nous est une évidence reconnue depuis 1981, bah pour eux, il n'en a jamais été question. Il y a certains pays où il n'en a jamais été question. Si on va en Pologne, aux médias citoyens, la radio, c'est pour faire du commerce, et puis c'est tout. C'est un business de fréquence, et sur ces fréquences, on fait du business en diffusant du message. Et il est venu à l'idée de quasiment personne, en tout cas dans les sphères du pouvoir, de reconnaître un tiers secteur de la communication sociale. Travailler avec l'Afrique et au Mali en particulier, où cette liberté est bien ancrée comme en France, c'est aussi travailler pour d'autres pays au nord comme au sud.
C'est vrai que la France en Europe a une situation quand même toute particulière. Elle est un peu isolée en Europe au niveau du nombre de médias non commerciaux qu'il peut y avoir en France, et, enfin, en radio en tout cas, et qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres pays européens, même les plus proches de nous.
Oui, c'est peut-être dur à entendre, parce que chacun d'entre nous a divergence à Clapas ou ailleurs. On pédale dans des problèmes de gestion de l'économie de nos projets de communication. De se dire que, nom d'un chien, au niveau européen, on est des privilégiés. Mmh. Parce qu'on a accès à un certain nombre de financements nationaux qui n'existent pas ailleurs, ou en tout cas pas dans ces volumes-là, qu'on arrive à trouver des compléments locaux. Il faut être capable de le savoir, d'en prendre conscience pour mesurer aussi la fragilité de notre position dans un grand mouvement où finalement le business des fréquences, c'est peut-être la meilleure solution. Pourquoi pas les mettre aux enchères, ça réglerait la question.
Justement, il a été évoqué le fait qu'au niveau de la liberté de la presse, le Mali est classé devant la France. Là aussi, il y a des leçons à tirer de cette convention.
Oui, bon là, les radios associatives témoignent que pour les deux pays, on est probablement au même niveau, que la France aide mieux ses radios associatives que le Mali n'aide ses radios communautaires. Mais là, je pense que tous les critères qui sont pris en ligne de compte intègrent notamment les évolutions législatives récentes en France qui font que les responsables de l'audiovisuel public sont nommés directement par le président de la République, ce qui correspond à des situations qu'on avait l'habitude de connaître dans les pays du tiers-monde et qu'on retrouve en France maintenant.
Des particularités culturelles toutes particulières qui ont aussi conditionné la rédaction de cette convention à laquelle Sébastien Nègre, qui a pu faire de nombreux échanges entre Radio Tabalet et Divergence FM, a largement contribué. La rédaction de cette convention, elle s'est passée facilement ou elle s'est heurtée à des difficultés ?
Non, elle s'est faite assez facilement parce qu'elle est volontairement large pour pouvoir permettre d'être juste un support, un outil pour tout un tas de projets internationaux. Donc ça n'a pas été très compliqué. En fait, on s'est adapté, on est parti de la convention qu'on avait fait avec les Canadiens. On l'a évidemment adapté aux réalités à la fois françaises et maliennes. Après, c'était un jeu de ping-pong entre les Français et les Maliens sur des points de détail ou des choses plus générales qui pourraient heurter ou déranger ou qu'on voulait rajouter. Mais ça s'est fait assez facilement.
Bah, du coup, ce travail s'est fait facilement aussi parce que bah, toi, tu fais partie des gens qui ont eu l'opportunité d'aller justement dans la radio jumelle, Radio Tabalet en l'occurrence. J'imagine que l'expérience sur le terrain là-bas et puis celle des autres personnes qui ont pu y aller, je pense à Jean-Paul Gambier évidemment, a été très utile pour justement lever ces quelques écueils au niveau de la rédaction.
Oui, parce que ça permet de connaître les réalités intellectuelles, culturelles, les réalités professionnelles aussi bien sûr, donc les réalités sur la manière de faire de l'information, de faire de l'antenne, de la radio de manière générale, sur la manière de s'adapter aux contraintes matérielles qui ne sont pas du tout les nôtres en France, c'est-à-dire que là-bas les coupures d'électricité sont très courantes.
Quand il y a de l'électricité ?
Oui, il y en a tous les jours, mais les coupures sont presque quotidiennes, souvent, surtout en période chaude. c'est-à-dire au printemps. Et puis les réalités matérielles font qu'il y a souvent du matériel qui peut casser, qui prend la poussière qui est très présente au Mali, qui peut prendre la chaleur qui est très présente au Mali. Donc oui, c'est sûr que connaître le terrain, c'est bien plus facile pour rédiger ce genre de convention et puis s'adapter au jumelage qu'on peut créer. Donc dans l'exemple de Divergence FM et Radio Tabalé, on a cette connaissance-là sur comment s'adapter en termes de programme et en termes d'approche humaine et aussi en termes de matériel pour travailler ensemble. Donc oui, ça, on commence à connaître un petit peu maintenant. Ouais.
Et c'est vrai que les auditeurs de Divergence ont pu apprécier le caïman divergent de nombreuses saisons et dans les saisons à venir. Savoir comment réaliser des programmes, c'est bien, mais se les partager, c'est pas toujours facile, même s'il nous semble évident aujourd'hui d'échanger nos programmes par Internet. Isabelle Bourdet, présidente de la CNRA.
Et on essaie de faire des échanges de programmes. Alors après, le problème se pose de tout ce qui est outils de communication, nouvelles technologies, Internet, l'Afrique, parfois il n'y a pas d'électricité. Donc ça, il faut peut-être aussi que nous, on réfléchisse avec des gens, comme les gens de Divergence, qui sont assez pointus dans ce domaine, comment on peut les aider, avec peut-être peu de moyens, à accéder à ces technologies-là.
Nous allons y travailler.
Et plutôt deux fois qu'une, mais pas tout seul, puisque l'école de supérieur de journalisme présente depuis de nombreuses années en Afrique, était aussi représenté par Benoît Califano.
Pour l'ESJ, se délocaliser, emmener ses formateurs en Afrique, ça nécessite d'adapter les plans de formation aux réalités de l'Afrique ou du Mali ?
Ah oui, totalement. Alors d'abord, c'est pas nouveau. Hein. L'ESJ est en Afrique depuis les années 60. On travaille énormément avec l'Afrique noire notamment et l'Afrique de l'Ouest depuis très longtemps. Sur les contenus des formations, évidemment, il faut qu'on l'adapte. Par exemple, je donne un exemple concret. La revue de presse a une place très très importante dans les médias communautaires maliens pour une simple raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire, donc ils ne lisent pas le journal. Donc on lit le journal à l'antenne. Et la demande qui nous a été faite par exemple par les professionnels, c'est formez-nous à la revue de presse pour pas que ce soit une lecture de journaux, mais que ce soit une vraie revue de presse. Première difficulté, La revue de presse, elle se fait pas qu'en français, elle se fait aussi dans les langues locales. Et il y en a beaucoup au Mali. Donc il va falloir qu'on travaille avec des Maliens, des journalistes maliens. Et en fait, toutes les formations qu'on est en train d'imaginer avec les radios maliennes vont se faire en binôme, un journaliste de l'ESJ avec un journaliste malien. L'idée derrière tout ça en plus, c'est que ces formations soient aussi pour ces journalistes maliens des formations de formateurs et qu'un jour, on ne soit pas aussi présent au Mali et qu'on passe la main aux journalistes maliens pour qu'eux forment leurs confrères. Mmh.
Ce qui a été évoqué tout à l'heure, justement, par rapport au fait que la France est classée mondialement en termes de liberté de la presse derrière le Mali aujourd'hui, c'est riche d'enseignements.
Oui, alors c'est des études qui sont relatives, parce que quand on lit malgré tout la presse malienne, même si on peut imaginer qu'il y a une liberté éditoriale, je ne suis pas sûr que le citoyen s'y retrouve dans le contenu et dans la qualité de l'information. La qualité de l'information au Mali n'est pas extraordinaire. Je pense qu'un citoyen français est bien mieux informé, je ne fais pas du cocorico, mais j'ai observé, est bien mieux informé qu'un citoyen malien. Donc, je crois que la priorité, la question elle n'est pas là, la question elle est vraiment de professionnaliser les journalistes maliens. Il n'y a quasiment pas de formation au journalisme au Mali, les journalistes apprennent sur le tas. Et donc on est tous avec cette délégation malienne et nous dans une préoccupation de professionnaliser les journalistes en activité, leur donner des outils pour améliorer la qualité.
Tout semble donc réuni pour que la signature de cette convention entre la Confédération nationale des radios associatives et l'Union des radios et télévisions libres du Mali puisse porter ses fruits. Prochaine étape au mois de novembre pour le festival Ondes de Liberté à Bamako. Et d'ici là, c'est sur les ondes de vos radios associatives que vous en saurez plus. Restez à l'écoute de Divergence FM. Un sujet proposé et réalisé par Gilles Gouget, une production Divergence FM, illustration Electro Bamako.